VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du jeudi 7 janvier 2016. À la une ce soir.
Nouveau massacre en République démocratique du Congo, l'armée nationale et la MONUSCO accusées de passivité.
Un attentat suicide fait des dizaines de morts en Libye.
Le Burkina Faso, un nouveau chef de gouvernement.
On a attendu pendant longtemps ce premier ministre. Enfin, il est là. Bon, c'est quelqu'un qu'on ne le connaissait pas. Franchement dit, on ne le connaissait pas. On ne l'a jamais vu.
Le torchon brûle entre Riyad et Téhéran. L'Iran accuse l'aviation saoudienne d'avoir délibérément bombardé son ambassade au Yémen.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Et 15 personnes ont été tuées aujourd'hui dans un massacre à caractère ethnique dans l'est de la République démocratique du Congo, où l'armée nationale et les casques bleus présents sont accusés une nouvelle fois de passivité face aux groupes armés. On fait le point avec John Lyndon.
Le drame s'est produit dans la nuit à Miriki, localité du Nord Kivu, à environ 110 km au nord de Goma, la capitale de cette province déchirée depuis plus de 20 ans par des conflits armés, alimentés notamment par des différends ethniques et fonciers. Les forces armées de la RDC, les autorités territoriales et le chef coutumier local de la communauté Nandé accusent des rebelles Hutu-Rwandais, des forces démocratiques de libération du Rwanda, d'en être responsables. Selon des sources locales, le chef Nandé du sud du territoire de Lubero, où se trouve Miriki, s'oppose depuis plusieurs mois au retour des déplacés Hutu-Congolais, accusant ceux-ci de vouloir conquérir l'espace Nandé. Le lieutenant Mac Azukai, porte-parole de l'armée congolaise dans la zone, affirme que les assaillants ont contourné leur position à Miriki avant de tuer à l'arme blanche. Interrogé par l'AFP, un porte-parole de la MONUSCO n'a pas souhaité faire de commentaires à ce stade.
Présidentielle centrafricaine, deux anciens premiers ministres, Anicet Georges Dologuele et Faustin Archange Touadéra, sont arrivés en tête au premier tour. Selon les résultats provisoires annoncés par l'Autorité nationale des élections, Dologuele a recueilli 23,78% des suffrages, devant son principal rival, Faustin Archange Touadéra, 19,42%. Il devrait donc s'affronter le 31 janvier pour le deuxième tour. Ces résultats doivent être validés par la Cour constitutionnelle.
Les Burkinabés ont découvert ce matin le nom de leur nouveau Premier ministre. Il s'agit de Paul Kaba Thieba, ancien administrateur délégué à l'UMOA au Sénégal, un technocrate peu connu du public. De Ouagadougou, Ousmane Ouédraogo dresse son portrait.
En nommant Paul Kaba Thieba au poste de Premier ministre du Burkina, le président Roch Marc Christian Kabore a déjoué tous les pronostics. Personne n'avait fait cas de ce haut cadre des finances qui était administrateur délégué du Fonds de stabilité financière de l'UMOA, différent de l'UMOA. L'UMOA, c'est l'Union monétaire ouest-africaine qui se caractérise par la reconnaissance d'une même unité monétaire. Le franc CFA. Le nouveau Premier ministre n'est pas un homme du sérail politique. Il a fait toute sa carrière dans les institutions financières hors du Faso. C'est donc un technocrate pur sang. Et cette virginité politique semble déjà lui porter un capital de sympathie. Le parti chef de file de l'opposition, l'UPC, tout en félicitant le nouveau Premier ministre, l'invite à former rapidement un gouvernement qui va s'attaquer sans tarder aux problèmes cruciaux qui assaillent les Burkinabés. Le nouveau Premier ministre, à partir de sa nomination, a 30 jours pour faire sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Ousmane Ouédraogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et nous entendrons en partie magazine ce que pensent les Burkinabés de leur nouveau Premier ministre.
Nouakchott a lancé un avis de recherche contre un djihadiste mauritanien, Salek Ould Cheikh, qui s'est évadé d'une prison il y a une semaine. Il a été condamné à mort en 2011 pour action terroriste dans le cadre d'une tentative d'explosion dans la capitale mauritanienne. Nous y reviendrons un peu plus tard dans cette édition.
16 tonnes de munitions découvertes dans le Sahel en 2015, tel est le bilan donné par l'armée française. Une centaine de caches d'armes ont été trouvées dans le cadre de l'opération Barkhane visant les djihadistes au Mali, au Niger, au Tchad, en Mauritanie et au Burkina Faso.
Lutte contre la corruption au Nigeria, Lawal Jafarou Issa, un proche du président Muhammadu Buhari, a été arrêté. Il est accusé d'être impliqué dans une affaire de détournement de fonds à l'occasion de contrats d'armement. C'est ce qu'indiquent les autorités.
Explosion près du palais présidentiel de Mogadiscio en Somalie. Des obus de mortier tirés par les islamistes d'Al-Shabaab ont fait au moins un mort, indiquent les autorités.
En Libye, près de 55 personnes ont été tuées dans un attentat au camion piégé contre un centre de formation de la police à Zlitten, dans l'ouest du pays. Idriss Fall.
Un kamikaze a fait exploser un camion-citerne contre le centre de formation des gardes-côtes à Zlitten, à quelques 170 km à l'est de Tripoli. Entre 50 et 55 personnes ont été tuées et au moins 100 blessées, selon Amar Mohamed Amar, porte-parole du ministère de la Santé à Tripoli, qui estime que ce bilan pourrait être révisé à la hausse. Martin Kobler, émissaire spécial de l'ONU, a condamné l'attentat. L'ONU s'efforce de mettre en place rapidement un gouvernement d'union nationale après l'accord signé le 17 décembre par des membres des deux parlements rivaux et qui doit être entériné avant le 17 janvier. M. Kobler a averti que tout retard profiterait au groupe État islamique qui contrôle déjà la ville de Sirte. Les djihadistes combattent les deux gouvernements rivaux, l'un reconnu par la communauté internationale basée dans l'est du pays et l'autre non reconnu à Tripoli. En début de semaine, le groupe djihadiste a lancé une offensive contre les installations pétrolières dans le nord libyen. Les combats ont fait plusieurs morts et quatre réservoirs de brut ont pris feu.
Attaque au Caire, des inconnus ont lancé des pétards et tiré à la chevrotine sur des policiers gardant un hôtel de la capitale égyptienne, un établissement qui accueillait des touristes arabes israéliens. Les responsables de la sécurité ne comptent aucune victime.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Iran a accusé l'aviation saoudienne d'avoir bombardé délibérément son ambassade au Yémen, faisant des blessés parmi le personnel. Le gouvernement iranien va protester auprès du Conseil de sécurité de l'ONU au sujet de ce bombardement, a affirmé le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, cité par l'agence officielle IRNA. L'Arabie saoudite n'a pas réagi, rappelant que les Saoudiens dirigent depuis mars 2015 une coalition arabe au Yémen combattant les rebelles chiites soutenus par l'Iran. Le torchon brûle donc entre Téhéran et Riyad depuis l'attaque de la mission diplomatique saoudienne dans la capitale iranienne suite à l'exécution d'un dignitaire chiite en Arabie saoudite.
En France, la police a abattu un homme armé porteur d'un emblème du groupe État islamique après qu'il s'est attaqué à un commissariat parisien. Un an, jour pour jour, après l'attentat meurtrier contre le journal Charlie Hebdo. L'assaillant n'a pas été identifié. Le commissariat visé se trouve dans le 18e arrondissement qui avait été mentionné avec le quartier d'affaires de la Défense comme une cible potentielle des djihadistes ayant commis les attentats du 13 novembre dans la capitale française.
Et toujours en France, le président François Hollande a promis plus d'engagement face à la gravité de la menace terroriste. Il s'est exprimé lors d'une cérémonie devant un aréopage de policiers, gendarmes et militaires pour commémorer l'anniversaire des attentats de janvier 2015 qui avaient visé notamment le journal Charlie Hebdo. Éric Manirakiza.
Le 7 janvier 2015, un an jour pour jour, la France se rappelle des attaques djihadistes meurtrières contre le siège du journal Charlie Hebdo où 12 personnes ont été abattues par les frères Chérif et Saïd Kouachi. Le lendemain, Amédi Koulibaly, lié aux frères Kouachi, avait tué une policière avant de prendre en otage. Le lendemain, des clients dans un magasin cachère, faisant 4 morts. Dans la cérémonie d'aujourd'hui, le président français a reconnu que son pays fait face à des ennemis aguerris. Il a exigé une parfaite concertation dans la plus grande transparence entre les services de police, de gendarmerie, renseignement militaire, pour mettre en commun toutes les informations dont il dispose. François Hollande a confirmé qu'un nouveau projet de loi pour renforcer le dispositif sécuritaire était en cours d'élaboration. Un autre incident a failli endeuiller encore une fois le pays. Un homme qui tentait de s'attaquer à un commissariat de Paris a été abattu par la police aujourd'hui, rappelant à la France la permanence de la menace qui pèse sur elle.
Le Premier ministre britannique David Cameron a obtenu un soutien partiel de la chancelière allemande Angela Merkel sur son exigence de restreindre le système d'aide sociale au sein de l'Union européenne. Monsieur Cameron s'est engagé à organiser un référendum d'ici la fin 2017 sur le maintien de son pays dans l'Union européenne au risque d'une sortie du pays de l'Union. Le déplacement de monsieur Cameron en Allemagne faisait partie d'une campagne que le Premier ministre britannique mène afin de trouver des alliés en Europe pour obtenir les réformes qu'il exige avant ce référendum.
Les États-Unis et leurs deux principaux alliés militaires en Asie, la Corée du Sud et le Japon, souhaitent une ferme réaction de la communauté internationale après le quatrième essai nucléaire nord-coréen. Selon la Maison-Blanche, ce test représente une nouvelle violation des obligations de Pyongyang vis-à-vis du droit international dans plusieurs résolutions de l'ONU. De son côté, la Grande-Bretagne a convoqué l'ambassadeur nord-coréen pour souligner, dans les termes les plus forts, la condamnation par le Royaume-Uni de l'essai nucléaire.
Gagner 675 millions de dollars en ce début d'année, c'est le souhait de millions de personnes ici aux États-Unis où la loterie Powerball, qui couvre la plupart des États, offrira justement un tel jackpot samedi.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Une crise financière semblable à celle de 2008 se profile et c'est le milliardaire américain George Soros qui le dit. À l'origine de l'orage financier à venir, selon M. Soros, les tribulations chinoises et les dévaluations successives du yuan qui n'en finissent pas de déstabiliser la finance internationale. Monsieur Soros a également averti contre les pressions déflationnistes qui pourraient générer un cercle vicieux. Car profitant de la baisse des prix, les consommateurs se mettraient à retarder leurs achats dans l'espoir d'un recul supplémentaire, ce qui pourrait pousser les entreprises de leur côté à retarder leurs investissements. Les prix des principales denrées alimentaires ont reculé pour la quatrième année consécutive en 2015, atteignant près de 20% et touchant toutes les catégories de produits agricoles, a annoncé aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, la FAO. Une situation qui, selon l'organisation, s'explique par une offre abondante dans un contexte de demande mondiale timide et de hausse du dollar. L'Afrique du Sud restera finalement bénéficiaire de l'AGOA, ce traité qui permet à 38 pays africains d'exporter sans frais de douane leurs produits aux États-Unis. Washington accusait Pretoria de bloquer l'importation de viande américaine en Afrique du Sud. Pretoria se défendait en affirmant que les produits américains n'étaient pas aux normes sud-africaines. Ces frictions sont désormais du passé ou presque. Le ministre du Commerce Rob Davis a affirmé lundi que l'Afrique du Sud avait trouvé un accord qui à la fois protège la santé animale en Afrique du Sud et maintient les relations commerciales entre les deux pays.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Anastasie.
Et nous passons tout de suite à l'actualité sportive avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Salut Gabi.
Alors, Patrice Carteron quitte le tout-puissant Mazembe.
L'entraîneur français Patrice Carteron a quitté le tout-puissant Mazembe, vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique en novembre, annoncé aujourd'hui le technicien. En fin de contrat en décembre 2015, il avait un temps envisagé avec son président Moïse Katumbi de prolonger l'aventure Gabi. Et il faut noter en même temps que le défenseur espagnol Marcos Alonso a prolongé de 5 ans son contrat avec la Fiorentina jusqu'au 30 juin 2021.
En Espagne, Luis Suarez traite ses adversaires de déchets, est-ce que c'est vrai?
Ah oui, et l'attaquant uruguayen du FC Barcelone risque jusqu'à 3 matchs de suspension en Coupe du Roi pour avoir qualifié ses adversaires, comme vous le dites, de déchets et déclenché une bagarre à l'issue du 8e de finale aller face à l'Espagnol, remporté 4-1 mercredi avec un doublé de Messi.
Quand on traite ses coéquipiers de basura, alors là, ça, c'est grave, Eric. France, Lyon s'offre un grand stade pour accéder à une nouvelle dimension.
Oui, l'Olympique lyonnais traîne samedi son nouveau stade, un joyau technologique qui, espère-t-il, va le faire accéder dans la cour des grands. Les Arsenal, Bayern ou autres Real Madrid qui sont tous propriétaires de leurs installations. Et le stade a une capacité de 5 à 9 000 places assises, Gabi.
Classe classement FIFA, statu quo général, la Belgique toujours en tête?
Oui, le statu quo s'explique par le fait qu'il n'y a quasiment pas eu de match international depuis le dernier classement du 3 décembre. Le top 20 reste toujours dominé par la Belgique devant l'Angleterre et l'Espagne selon
l'Argentine, je crois.
Et l'Argentine, oui, oui, merci. Et l'Allemagne vient en 4e position, 5e Chili, Brésil 6e, Portugal 7e, Colombie 8e, 9e Angleterre et l'Autriche occupe la 10e place.
Et rapidement, dans la NBA, les résultats de mercredi.
Oui, les San Antonio Spurs sont toujours invaincus. Les Spurs sont les seuls avec un bilan de 31 victoires et 6 défaites. Les Cleveland Cavaliers ont surclassé les Washington Wizards et l'ancienne équipe de LeBron Miami s'est fait surprendre à domicile par les New York Kings.
Il faut dire que les Spurs ont perdu, mais pas chez eux, donc ils sont invaincus à domicile. Ouais. Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, Morgane Guériac et Chérubin Dorsil. Place au dossier du jour. Alors Morgane, on va tout d'abord à Ouaga.
Paul Kaba Tieba est le nouveau Premier ministre du Burkina Faso. Sa nomination à ce poste a surpris plus d'un Burkinabé. Notre correspondante Oumana Wonougo a promené son micro dans les rues de Ouagadougou pour recueillir quelques avis.
On a attendu pendant longtemps ce Premier ministre. Enfin, il est là. Bon, c'est quelqu'un qu'on ne le connaissait pas. Franchement dit, on ne le connaissait pas. On ne l'a jamais vu. On n'a jamais entendu son nom dans le milieu politique. Mais comme il est rentré dans le jargon politique, je crois que les gens vont s'entraider. Il va faire un bon travail. Parce que aujourd'hui, le Burkina Faso est plongé. Quand même pas dire qu'une grande crise, mais aussi c'est une crise. Parce que de là où on est sorti là, il faut vraiment des hommes qui ont la capacité et de vouloir bien faire la chose et qui doivent être là. Vraiment, nous souhaitons bon à ce Premier ministre-là, que le Dieu Tout-Puissant lui donne la force, l'intelligence, le courage, la sagesse de pouvoir s'asseoir et de travailler convenablement et de répondre à l'attente de tous les Burkinabés.
Moi, je suis Amadou Tiemtouré. Je remets quelqu'un d'une autre branche, mais pas un économiste. Si le président du Faso n'était pas un économiste, il n'y a pas de problème. Des économistes, vraiment, moi, je ne vois pas. Il va faire venir l'argent, mais la population est trop pauvre. D'abord, avant que l'argent ne rentre, c'est nous, on va centrer au niveau des opérateurs économiques. Ils vont trop serrer les choses. Les affaires, les opérateurs économiques, ils vont essayer de ne plus partager. Par exemple, si un opérateur économique, il donnait sa marchandise à crédit, il va dire que maintenant les impôts sont serrés, il ne peut plus fournir aux revendeurs à crédit. Vraiment, moi, je n'apprécie pas. Mais je suis très content parce que ce n'est pas un homme politique. Roc a choisi quelqu'un qui n'est pas politicien, qui ne fait pas partie du MPP, qui était à l'extérieur. Oui, c'est bien, mais le fait que c'est un économiste, parce que le cas de Tessut nous a déjà donné un bon exemple.
Le choix, comme il est de la BCAO, je pense qu'il pourra peut-être bien gouverner le pays. Bonne chance, surtout qu'il soit un bon premier ministre pour tout le peuple burkinabé.
C'est quelque chose qu'on attendait depuis fort longtemps. Je ne le connais pas très bien, mais son palmarès me dit quelque chose. Donc je crois qu'il pourrait tenir. Le pays était tombé presque en chaos. Il faut quelqu'un pour relever le pays. Le Burkinabé n'est pas du là. Tu parles avec un peu seulement, jusqu'à ce qu'on va t'accepter. Tu peux trop serrer, on a vu pour Tétu Zongo, il a serré. Du coup, il a pénalisé les gens, lui, il n'est pas, il ne sait pas les deux aussi. Lui, il a fui. Donc, il n'a qu'à le doucement un peu seulement. Doucement, ça va aller.
Propos recueillis par notre correspondant Zoumana Wonogo à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
À la table des négociations inter-burundaises en Tanzanie, les femmes sont présentes par le biais du mouvement des femmes et des filles burundaises pour la paix et la sécurité, mouvement qui avait organisé les manifestations de femmes contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Claire Morin-Gibourg a joint l'une de ces femmes, Keti Niviabandi.
C'est vraiment une contestation de principe sur la violation de l'accord d'Arusha et également de notre constitution. Et c'est pour cela que les femmes se sont levées, parce que nous sommes toujours les toutes premières victimes de tout conflit. Et depuis, le mouvement a évolué. Je suis actuellement en exil, donc comme beaucoup d'autres individus et d'autres organisations qui n'ont pas le même langage, la même vision que le gouvernement actuel. Et le mouvement s'est étendu et comprend aujourd'hui des femmes de tous bords, des femmes de la diaspora, des femmes du Burundi, une grande base de Burundi, de toute mouvance politique, idéologique, etc., rassemblées pour travailler ensemble, œuvrer ensemble pour un retour à la paix. C'est le retour à un état de droit.
Est-ce que vous pensez qu'il s'agit juste de belles paroles ou que les femmes vont avoir une meilleure place au sein des négociations ?
Nous sommes justement là pour nous assurer que cela soit fait. Et donc nous avons décidé de ne pas attendre qu'on nous fasse de la place ou qu'on nous donne telle parole ou telle position. Nous avons plutôt décidé de nous lever collectivement et de faire entendre la voix féminine. Donc si ce n'était que de belles paroles, nous ne serions pas sur la table des pourparlers aujourd'hui. Et de toute façon, je peux vous assurer que nous ne sommes pas là pour être des figurantes, mais plutôt vraiment une force active. Et je pense que le mouvement, mais les femmes en général, joueront un rôle primordial dans la résolution de ce conflit. Elles ont déjà joué un rôle extraordinaire depuis le début de la crise.
Est-ce que vous allez pouvoir vous rendre à Arusha pour participer aux négociations ?
Personnellement, non, nous sommes un mouvement, donc c'est-à-dire que nous sommes représentés très très bien. Et ce qui, je crois, fait la différence, c'est que nous sommes vraiment des femmes rassemblées pour trouver une solution pour le Burundi. Oui, nous serons absolument là tout au long du processus, non seulement pour observer ce qui se passe, mais pour offrir notre contribution à la résolution de ce conflit, trouver une solution, offrir le point de vue de la femme qui est souvent celui de toute la société, que nous sommes les mères, nous sommes les sœurs, et nous sommes les épouses de toutes ces personnes qui meurent. Au-delà de ça aussi, nous assurer que la solution, toute solution qui sera trouvée sur cette table est une solution qui convient à tous les Burundais.
Kitty Niviabondi nous parlait du Canada. Elle est porte-parole du mouvement des femmes et des filles burundaises pour la paix et la sécurité.
Élections en Centrafrique, c'est le thème de Washington Forum cette semaine. Le scrutin présidentiel est déjà contesté avant même la proclamation des résultats. Fallait-il organiser ce vote coûte que coûte avant la fin de l'année ? Qu'en pensez-vous ? Laissez-nous vos commentaires sur notre page Facebook. Ils seront lus pendant l'émission ce jeudi 19h, temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique.
Au Bénin, la liste des personnes qui voient d'un mauvais œil la candidature à la présidentielle du Premier ministre Lionel Zinsou s'allonge. Un front créé par l'ancien président Micéphore Soglo et l'ancien médiateur de la République, Albert Thévaud-Djiré, regroupe un grand nombre d'hommes politiques qui pensent que la candidature de Lionel Zinsou est un piège de la France. La France qui chercherait, selon eux, à s'incruster dans la gestion du Bénin. Timothée Donangmaï a recueilli à Cotonou la réaction de Maître Sadikou Alao, président du groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social, le GERDES Afrique.
Ça, c'est des préjugés. Je n'ai pas assez bien connaître le Bénin, c'est à vérifier. On nous reproche d'être français, d'être attaché à la France. Bon, ça, c'est de bonne guerre. Mais au Bénin, ce n'est pas rarissime d'avoir les hommes politiques de premier plan avec la nationalité française. Certains ont été même présidents de la République, donc ce n'est pas un fait nouveau. Mais pour le combattre, évidemment, on peut dire beaucoup de choses. Mais je pense que c'est de bonne guerre en matière politique, mais je ne suis pas très certain qu'il y ait des choses véritablement sérieuses. Seule la Cour constitutionnelle peut dire qui peut être candidat ou qui peut ne pas être candidat.
Quel est le poids politique de la coalition qui s'oppose à M. Zinsou?
Il y a d'abord les adversaires, les autres candidats à l'élection présidentielle, qui normalement s'opposent à lui en toute légitimité, puisqu'on est en démocratie. Bon, il y a maintenant un front qui vient de se former avec des intérêts disparates, mais il faut que tout ça évite la xénophobie. Et les organisations comme les nôtres pensent que la diaspora a son mot à dire dans la politique interne. Et si quelqu'un de la diaspora se présente à une élection démocratique au Bénin, il ne faut pas critiquer celui-là parce qu'il vient de l'extérieur, parce qu'il n'est pas beaucoup resté au Bénin. C'est une fausse querelle que les électeurs qui vont déterminer. Si les électeurs pensent que ce n'est pas le candidat qu'il faut, il se prononcera dans les urnes. Tout le reste n'est que politique.
Le Bénin est assez libéral en matière d'élection présidentielle puisque même les personnes naturalisées peuvent briguer la présidence.
Il n'y a aucune restriction au Bénin si vous êtes de nationalité béninoise. Vous savez, il y a beaucoup de Béninois qui sont franco-béninois et peut-être même canadiens béninois ou américains béninois, mais il y a beaucoup de Béninois qui sont franco-béninois et qui votent en France et qui votent régulièrement à l'ambassade de France lors des élections françaises. Donc, vouloir faire la querelle à Jissou d'être plus français que d'autres franco-béninois, je pense que ce n'est pas un critère sérieux pour la société civile.
Mais est-ce que ces critiques ne pourraient pas quelque part braquer l'opinion contre M. Jissou?
Non, c'est à l'électorat de se déterminer. On verra le poids de cette critique. Vous savez qu'on ne trouve pas toujours au paradis ce qu'on y attend. Hein.
Voilà, c'était Maître Sadiku Alao, président du GERDES Afrique, joint à Cotonou.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou, 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
La Mauritanie a lancé un avis de recherche contre le djihadiste Salek Ould Cheikh. Il avait été condamné à mort en 2011 pour une action terroriste, mais s'est échappé le jour de l'an de la prison centrale de Nouakchott. Alors qui est ce fugitif peu ordinaire? Idriss Fall a joint Mohamed Oul Attab, directeur du journal Nouakchott Info.
Salek Ould Cheikh, c'est un jeune qui est né en 1984 à Attar, au nord. Il fait à peu près 1m65. C'est un terroriste affilié à l'ACMI qui a été arrêté en 2011 et condamné à mort pour avoir convoyé avec d'autres terroristes de l'ACMI des véhicules bourrés d'explosifs à Nouakchott. C'était trois véhicules. Deux véhicules ont été détruits par les forces armées mauritaniennes. Le troisième véhicule dans lequel il était a été arrêté et ses assaillants ont été faits prisonniers.
Mais comment est-ce qu'il a pu s'échapper?
C'est la grande question qui se pose. C'était le vendredi premier jour de cette nouvelle année 2016. C'est un jour de prière et justement son absence a été remarquée à la prière parce qu'il n'était pas parmi le groupe qui faisait la prière. La dernière fois qu'il a été vu, semble-t-il, c'était la veille.
Mais ce n'est pas la première fois que des terroristes présumés s'échappent des prisons mauritaniennes.
Je préfère dire que c'est quand même la première grande évasion pour un terroriste salafiste condamné à mort qui réussit à s'évader de la prison centrale de Nouakchott.
Il y a 9 ans, il y avait aussi des prisonniers qui s'étaient échappés, non?
Oui, mais d'un calibre comme celui-là, c'est vraiment le premier. Sinon, il y a eu effectivement des prisonniers qui se sont plusieurs fois évadés. À chaque fois, ils ont fini par être rattrapés. Il y en a même qui se sont évadés alors qu'ils étaient au palais de justice, alors qu'ils devaient être entendus par les magistrats. Mais pour ce cas-là, c'est vraiment la première fois.
Est-ce que la menace terroriste persiste en Mauritanie?
Menace comme telle, oui, puisque le terrorisme est transfrontalier, on ne sait jamais d'où il peut venir. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'esprit du Mauritanien, la menace terroriste n'est jamais lointaine, n'est jamais éloignée. Mais on est tranquille quand même. Maintenant, on sait que les frontières ont été verrouillées. On sait que les Mauritaniens sont très vigilants. Les forces armées et de sécurité sont à la pointe, j'allais dire, du renseignement dans la sous-région. N'empêche que la menace terroriste existe toujours. Nous sommes dans une zone qui est extrêmement imprévisible.
Mohamed Ould Attab, directeur du journal Nouakchott Info.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel au menu. African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show, chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Lionel Gaïma, présentation chez Robin Dorsil et Morgan Guériec.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On continue la conversation, bien sûr, sur Facebook. Partagez vos points de vue, vos photos, commentez, posez des questions. Et surtout, n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.